CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
La vie du Villefranchois dans le magazine d'actualité. Bonjour tous, bienvenue si vous venez de nous rejoindre et bon début de semaine. Et bonjour Karine Justeau, coucou.
Et bonjour à tout le monde et bonjour David.
Karine Justeau, nutritionniste, diététicienne, intervenante en goût, historienne, coach sportive, chirurgienne, professeure, etc. Aujourd'hui, une intervention autour.
Non mais quand même, pardon, je vous coupe. Oui. Vous vous rendez compte, nous les femmes, tous les rôles que
nous,
l'on a.
Nous les femmes.
Ouais, c'est terrible quand même.
Qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Équilibre alimentaire et nutrition, oui, pour le coup, et vous me l'avez confié là juste avant de rentrer en studio. On va parler de nutrition auriculaire. On mange avec ses yeux aujourd'hui.
Pas auriculaire, David.
Ah bon?
Nutrition oculaire.
Oculaire.
Auriculaire, c'est le petit doigt.
Oh, pardon.
Mais c'est pas grave, personne
oculaire.
Ne vous en voudra. Au contraire, ça fait commencer la semaine avec un petit peu de rire et c'est sympa. Et oui, la nutrition oculaire, mais ceci dit.
On mange avec les yeux.
Je me moque de vous parce que c'est quand même quelque chose qui est encore peu connu, reconnu aujourd'hui, la nutrition oculaire.
Mais même totalement inconnu.
C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on entend par nutrition oculaire? En fait, l'objectif de ma petite chronique, c'est de faire un petit peu le lien entre l'alimentation et la bonne santé de nos yeux. Et c'est vrai qu'il y a des pays, je me suis un petit peu renseignée sur ce sujet-là, et il y a des pays qui sont bien plus en avance, par exemple en Australie, sur cette nutrition oculaire, c'est-à-dire que quand vous allez chez l'ophtalmo vous pose des questions sur la façon dont vous mangez. Ici en France, alors peut-être que ça existe, hein, mais en tous les cas, j'en entends peu ou voire pas
du tout
parler. Voilà.
Donc en gros, si on change notre alimentation, peut-être on pourrait se dispenser de lunettes.
Alors non, c'est pas tant sur la vue, sous-entendu un problème de vue qui nécessite des lunettes, c'est plutôt sur les pathologies donc des yeux comme la cataracte, la DMLA, les glaucomes, etc. D'accord. Alors c'est quoi? C'est en fait opacification du cristallin. C'est quand notre cristallin s'opacifie, en fait, ça aboutit à la cataracte. Mmh. Et il faut quand même savoir que cette pathologie-là, c'est la première cause de cécité dans le monde. Donc, c'est pas rien quand même. Donc, peut-être ça peut être intéressant de raisonner aussi l'alimentation en vue de ça. Alors, clairement, ce sont des pathologies qui arrivent plutôt avec l'âge. D'accord. Mais néanmoins, c'est aujourd'hui qu'on prépare notre vieillesse, hein, quand même. Enfin, c'est aujourd'hui, nous, à notre âge. Donc, on prépare notre vieillesse, surtout quand on est jeune, hein, d'accord. Alors, pourquoi? Parce que dans le cristallin, il y a 50 fois plus, c'est juste pour donner une idée, 50 fois plus de vitamine C que dans le plasma. Autrement dit, il nous en faut beaucoup. D'accord, dans notre alimentation, de la vitamine C.
À fond de vitamine C, du citron, de quoi? J'allais dire de la meringue, mais non.
De la meringue, oui, pas que quand même.
Oh, c'est de la vitamine, la meringue.
Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre rétine, elle concentre de ce qu'on appelle de caroténoïdes. Vous savez ce que c'est ça, les caroténoïdes? À quoi ça vous fait penser?
La carotte.
Exactement. Hein, donc, ce sont ces composés-là qu'on va trouver dans les légumes qui sont colorés, qui sont justement orange, etc. Et c'est ces choses qu'on va trouver dans ces légumes-là qui vont agir comme filtre vis-à-vis de notre lumière bleue. Vous savez, la lumière bleue, on en entend parler à cause des écrans, etc. Et c'est ça qui fatigue beaucoup les yeux. Eh bien, dans nos légumes colorés, on va dire, on va avoir décomposé ces caroténoïdes-là qui vont justement agir comme filtre et donc préserver quand même un petit peu notre cristallin. Donc c'est vrai qu'encore une fois, vous allez dire et oui, voilà, encore une fois, vous faites la promotion des fruits et des légumes.
J'ai rien contre. Mais je note une chose, c'est que voilà, la mode en 2018, c'est de se renseigner sur la nutrition oculaire et sur la lumière bleue, parce que vous avez, c'est vrai, on n'en entendait pas du tout parler il y a encore
quelques temps,
et c'est très très présent. D'ailleurs, il y a un petit marché qui est en train de se développer autour de lunettes pour les écrans.
Et ceci dit, les jeunes savent peut-être plus que nous. Quand je dis les jeunes, c'est les jeunes ados. Parce que c'est vrai que sur certains téléphones, il y a cette fonction de modifier la lumière pour la nuit. Cherchez l'info sur vos smartphones parce que c'est vrai que quand même, je pense qu'avec le nombre d'heures d'écran que les générations aujourd'hui font, on va pouvoir avoir des soucis plus tard. En tous les cas, si je reviens sur mes deux caroténoïdes là, principaux, alors peu importe, c'est des déclinaisons de la vitamine A, enfin peu importe les noms, mais en tous les cas aujourd'hui on n'en entend pas parler parce que c'est pas des choses sur lesquelles il y a des recommandations officielles, hein, des fois on sait la vitamine vitamine C, par exemple, voilà, il nous faut tant, etc. Mais après, les petits composés à l'intérieur, il n'y a pas forcément de recommandation officielle. Mais quand même, dans les pays où ça a été observé, eh ben, on se rend compte que quand même, il nous faudrait tant, eh ben, on en consomme la moitié. D'accord. Donc, autrement dit, dans la population aujourd'hui, avec l'alimentation qui est la nôtre, en moyenne, hein, bien sûr, eh ben, on ne consomme pas suffisamment de ces légumes colorés pour pouvoir dire nous allons protéger nos yeux. D'accord.
Donc, plus de betteraves, plus de carottes, plus de raisins aussi, raisins rouges.
Exactement.
À la bonne période.
Et puis plus aussi de légumes à feuilles vert foncé. Donc les choux frisés, là, vous savez, les épinards, les salades, etc., etc. Sachant quand même que il y a quand même des choses qui vont jouer sur leur biodisponibilité. C'est-à-dire que certains éléments vont faire que, certes, on va avoir ces composés, mais ils vont être plus difficilement assimilables et donc utilisables par notre organisme. Alors, par exemple, quand on fait cuire, ça, on le sait. Quand on fait cuire, on perd une partie des nutriments et micronutriments. Donc, on va essayer d'avoir à l'esprit d'avoir des aliments crus assez régulièrement. D'accord ? Par exemple, quand je travaille en maison de retraite, c'est tous les repas, en théorie, qu'on a des aliments crus.
Ah oui.
Des végétaux, je veux dire. Donc, soit, par exemple, si on mange, qu'est-ce que je vais vous citer comme exemple ? Des carottes râpées en entrée, on peut manger une compote en dessert. Mais si on mange une salade de betterave cuite, hein, eh ben, on va manger une pomme à la fin.
Ah d'accord. Vous voyez ? Il faut du cru.
Un végétal cru pourra faire le plein de vitamines, justement. Et c'est là où je pense que la moyenne des Français aujourd'hui n'est pas forcément très très bonne. Parce que même si on mange des légumes, si on les mange tous cuits, forcément on a un taux de nutriments qui est moindre. Dire aussi quoi que effectivement ces pathologies là donc des la nutrition oculaire, les pathologies que l'on risque avec nos yeux, il y a d'autres facteurs et qui peuvent être liés à l'alimentation qui va les provoquer ou les accélérer. Et par exemple le diabète. Hein, on sait très bien, le diabète, vous savez, ce sont ce sont les petites artères et donc ça touche les yeux. C'est pour ça que quelqu'un qui est diabétique, d'ailleurs, il a une surveillance régulière de ses yeux. Donc le diabète, mais aussi, comme vous venez de le dire, sans parler de pathologie, si on consomme souvent des glucides à index glycémique haut, donc autrement dit du sucre, ça peut aussi avoir une forte répercussion. Donc on fait attention. Et autre facteur de risque aussi, le tabac. Alors là, je sors un petit peu du cadre de l'alimentation, mais le tabac, forcément, va aussi abîmer nos yeux. Par contre, ce qui est très important aussi de dire, c'est que d'après les études aujourd'hui, parce que c'est actif hein, quand même ce champ de recherche, là, nous on n'en entend pas parler, mais il y a des gens qui travaillent pour nous de façon cachée, visiblement, même si on prenait des compléments alimentaires, ça n'aurait pas les mêmes effets que de réellement consommer les aliments.
Tout s'inscrit dans la régularité, dans son alimentation. Donc pour faire bref et résumé, pour avoir 10-10 aux deux yeux, il faut manger de la betterave.
Et surtout pour les garder longtemps, nos yeux.
Eh oui. La nutrition
oculaire
aujourd'hui, drôle de chronique, proposition de Karine Justeau. La semaine prochaine, vous savez de quoi vous nous parlez, Karine ?
Si on restait sur les fruits et les légumes, et puis j'ai envie de vous proposer la visite d'un petit site que j'aime bien, et j'y ai pensé là en vous parlant. D'accord ?
On va surfer la semaine prochaine. Merci Karine.
Merci.
Belle semaine.
Également.
Et on retrouve cette intervention sous peu en podcast sur le site cfmradio.fr. On suit votre actualité sur la page Facebook Karine Justeau, Diet News. La suite du programme, une rapide musique. Et Delphine Henequet, naturopathe au magasin Au Bio, les lundis en CFM. On parle bien-être, santé, équilibre alimentaire et mieux-être au final. Then it's an alien with extra ability. First time to next century. Somewhere has craft lost control. Guess where he stopped for petrol. Wishing Americana happy. Wishing Americana free. Benz on alien passing by. Wishing everyone be back home.
joke about shooting stars and spoke like a true bard. Said don't play with songs, music is not marked as fierce toy, tear joys. Wishing Americana happy. Wishing everyone
Votre rendez-vous bien-être vous est présenté par le magasin Obio Nature et Vie, avenue de Toulouse à Villefranche-de-Rouergue.
Et allez, zoupela, patchalala, les lundis en deuxième partie d'édition, c'est Pif Paf Pouf, Delphine et Nequet en studio. Coucou Delphine.
Coucou.
Nature Rock Pat, pourfendeuse de la belette de Winchester, auteur du livre Comment soigner son panari, en 10 leçons, les champignons, tout ça, enfin best-seller, succès.
Mycose.
Ah oui, vie et mort d'une mycose en 3 temps et 4 mouvements.
C'est ça.
C'est pas un peu long comme titre, je me demandais. Non, c'est sur la couverture. Oui, ça passe. Ouais.
Ça passe.
La vie secrète des arbres n'a qu'à bien se tenir. Delphine Deneke, donc naturopathe au magasin bio, un espace géré par Ingrid et Valérie, situé avenue de Toulouse. Et aujourd'hui, rubrique chronique historique avec Hildegarde de Bingen.
De Bingen, oui, exactement. Sainte-Hildegarde. Sainte-Hildegarde, qu'on retrouve d'ailleurs dans des produits en magasin de Sainte-Hildegarde, en fait, des associations de plantes pour faire des tisanes ou autres. Il y a marqué Sainte-Hildegarde. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Sainte-Hildegarde...
Ah bah, elle n'est pas toute jeune.
Oui, elle a à peu près un peu plus de 800 ans, quand même. Donc, c'est... Oui, puisqu'elle était quand même... Et c'est ça qui est quand même extraordinaire. C'est que cette nana du Moyen-Âge, quand même, où ses écrits sont quand même parvenus... Enfin, voilà, sont toujours d'actualité. C'est extraordinaire de traverser le temps... On va dire que c'est une des premières phytothérapeutes importantes de l'histoire. Enfin, de l'histoire. Non. Enfin, il y en a d'autres, mais en tout cas, elle fait partie des phytothérapeutes importantes de l'histoire.
T'aurais pu faire ta chronique en allemand aujourd'hui, je sais que tu maîtrises la langue et puis.
Pu, hein, c'est vrai, c'est pas faux. Mais puisque effectivement, il faut le préciser, Sainte-Hildegarde de Bingen était donc. Allemande.
C'est possible.
D'origine germanique. Donc très vite, elle a été au couvent et compagnie. Bon, on va pas vous faire le truc. Non. Mais en tout cas, c'était une religieuse bénédictine, donc qui était une grande mystique, hein, apparemment, recevait des informations du ciel. Et, elle était médecin, guérisseuse, et donc, je le disais, elle était naturopathe quand même, on peut le dire. Donc, elle a écrit plusieurs ouvrages. Que je n'ai pas lu, hein. Je vous le dis tout de suite, je ne les ai pas lus. Mais quand même, c'est intéressant puisque c'était quand même quelqu'un qui avait énormément de bon sens et un sens de l'observation aiguë.
Et donc, en fait, elle en déduisait ses observations et elle a fait un gros, gros travail de holistique, c'est-à-dire que vraiment, elle tenait compte de l'individu dans son ensemble, comme on le fait nous en naturopathie, c'est-à-dire, voilà...
Le global.
Exactement. Mmh. La typologie de l'individu, et puis, elle parlait aussi des humeurs, hein, ces humeurs dont on parlait, être de mauvaise humeur, ça veut dire quoi ? Les humeurs, en fait, c'était tous les liquides corporels, donc elle... Il y avait cette observation de l'encrassement du corps, voilà, il y avait besoin de nettoyer à des moments pour régénérer ses organes, mais aussi son psychisme et son état émotionnel. Mais c'est quelqu'un qui a été très souvent malade tout de même. Donc voilà, elle a pu observer chez elle aussi ce qui pouvait la soulager. Donc voilà, une grande médecine de bon sens. Et elle a quand même, dans ses ouvrages, décrit les vertus de plus de 500 plantes, animaux ou minéraux. Donc voilà, ça
elle entretenait un petit jardin d'ailleurs, hein, non, de plantes.
Oui, bah, de toute façon, dans toutes ces abbayes et tout, bien sûr, ils avaient ça.
C'est ce qui se passait à la Chartreuse ici à Villefranche, je crois, me savoir.
Et puis, on lui reconnaît ce gros travail de référencement, d'observation. Et elle avait quand même des plantes ou des aliments chouchous. Quand même, voilà. Dont l'épeautre en particulier. L'épeautre, il existe même encore ce qu'on appelle la cure d'épeautre selon Saint-Hildegarde, donc une cure de 21 jours qui consiste en fait à manger. En fait, c'est une sorte de monodiète à l'épeautre, puisqu'elle considérait que c'était vraiment déjà la meilleure de toutes les céréales, loin devant le petit épeautre. Alors, je ne sais pas si à son époque on connaissait quand même déjà le petit épeautre, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, c'est vraiment de l'épeautre, épeautre non hybridé dont parle, en disant que c'était la meilleure céréale parce que déjà elle contenait tous les acides aminés essentiels, mais aussi des protéines, des minéraux en quantité importante, et donc c'était vraiment quelque chose qui renforçait énormément l'organisme.
Il y avait des microscopes à cette époque ? Comme le regard qui tue. C'est quoi cette question, quoi ? C'était ça le regard.
mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle, d'acidité, elle parle des inflammations. Donc elle a cette notion de terrain. Voilà, en disant si on corrige avec l'alimentation, si on corrige le terrain, eh bien certaines maladies disparaissent ou en tout cas s'améliorent. Donc ça, c'était déjà de la naturopathie, on est d'accord. C'est en ça que consiste la naturopathie. Et donc, affection toute particulière pour cette céréale qu'est l'épeautre. Et puis, par exemple, quand elle parle du fenouil qui est très très présent dans toutes ses préparations, c'est le fenouil, ça rend joyeux. Voilà, on connaît le fenouil pour ses propriétés digestives. Effectivement, le fait de favoriser une bonne digestion, d'être bien dans son ventre quelque part, eh bien c'est vrai, on est bien dans sa tête et on est d'humeur joyeuse. Donc effectivement, le fenouil rend joyeux. Elle parle de la châtaigne en disant que la châtaigne protège le foie et les nerfs.
Ah, tu vois ?
Ah, tu vois, j'avais dit le contraire. Et puis que la noix aussi rend joyeux. Et elle parle par exemple des amandes en disant que celui qui a le cerveau vide mange des amandes. Donc c'est vrai que quand même elle nous parlait pas des oméga 3 là. Mais pourtant, déjà, son observation aiguë fait que quand même, elle pointait déjà, en fait, c'était déjà de la nutrition.
Parce qu'il n'y avait pas des labos à l'époque, quand je parlais du microscope, il n'y avait pas de labos non plus. Donc
sûr,
ça reposait vraiment
âge,
sur une observation très fine.
Très fine, oui. Et on est au Moyen-Âge et quand même, déjà, ils identifient que par l'alimentation, on peut et corriger le terrain et améliorer des fonctions.
Bravo Hildegarde.
Ouais, bravo Hildegarde, on peut le dire. Elle fait des recommandations de cuisson. Elle recommande très peu de crudités, ou en tout cas des choses qu'elle observe améliorer la santé quand c'est cuit, mais pas cru. Voilà. Donc après, il faut recontextualiser aussi. Hein. C'était une époque particulière. C'était pas non plus les mêmes pathologies qui étaient là, mais quand même, enfin, gros travail qui est important. Les recettes qui sont encore utilisées aujourd'hui. Hein, vraiment des recettes pour l'élaboration d'élixirs, pour soigner tout un tas de pathologies, que ce soit de la migraine, aux troubles digestifs, aux maladies de peau, des tisanes, des associations voilà, pour des tisanes, des vins aussi, hein, on faisait des vins qui soignaient aussi. Hein. Des associations de plantes médicinales avec des épices, pour aussi l'élaboration, je le disais, d'élixirs et tout ça, mais aussi de baumes de soins, tout un tas tout un tas de recettes qui sont à disposition pour tout un tas de mots. Mais ce que j'aime aussi beaucoup, c'est cette subtilité qu'il peut y avoir, et ça très certainement parce que c'est une femme.
Il y a des chances, il y a de grandes chances. Et c'est possible ce que tu dis.
mais aussi, elle va dire par exemple, eh bien pour soigner la colère, on peut respirer de la sauge et de la rose. Il y a quand même aussi ce soin de l'émotionnel grâce aux odeurs. Donc là, elle n'explique pas forcément quels sont les composés chimiques qui vont avoir une action sur les récepteurs. On s'en fiche. En tout cas, elle va dire que la sauge a cette propriété de consoler, la rose d'ouvrir le cœur, le lys aussi, voilà, dans toutes ces odeurs.
Dans les fleurs du docteur Bach, quoi, quasi.
Non, parce que là, on est vraiment dans l'olfactérapie, l'olfactothérapie.
C'est vraiment mais sur l'émotion, respire. Sur l'essence, c'est un peu la vocation des fleurs de Bach, non ?
Oui, mais le docteur Bach, on est encore dans de l'information qui ne passe pas du tout par la chimie. Là, ça passe par de la chimie, le fait de respirer. Il y a quand même des molécules chimiques qui arrivent et qui vont avoir une action. Mais bon, l'information reste très certainement la même. De toute façon, la rose, que ce soit quand on la respire, quand on la prend en infusion ou quand on peut la prendre sous forme d'élixir floral aussi, il y a toujours ce rapport au cœur. La rose, c'est la fleur qu'on va prendre pour être enveloppante, rassurante et aussi guérir le cœur. Quand il y a des deuils, par exemple, deuils pas forcément à la perte d'un être cher, mais deuils en tout genre, en tout cas, elle va réconforter la rose. Et c'est vrai que ça aussi, ça fait partie, les travaux d'Hildegard aussi font partie de cette observation de l'action de la rose, l'action subtile de la rose, mais elle parle également d'autres fleurs. Donc voilà, alors évidemment, plus pragmatique, des plantes qu'on respire pour dégager les voies respiratoires et tout, mais voilà, une observation sur, si vous plantez telle plante à cet endroit-là et que vous respirez l'odeur, eh bien vous aurez, par exemple, ça va calmer la colère ou vous sentirez moins triste, voilà, donc très 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 chouette. Donc c'est encore une fois son sens de l'observation, les détails de l'application des plantes qui sont consignés dans ses ouvrages.
Et puis elle a dû passer par ses états pour trouver des remèdes.
Bien sûr, évidemment, je crois que de toute façon, comme le docteur Bach que tu citais, ils sont tous déjà des observateurs des autres, mais déjà des expérimentateurs, si je puis dire déjà.
Tu peux le dire.
Je peux le dire. Donc voilà, un beau travail, et c'est une personne qui je trouve, qui
une
mérite.
Belle personne. C'est une belle
non,
personne.
Non, mais en tout cas, c'est quelqu'un à qui on peut. Je pense que c'est normal. Si on s'intéresse un tant soit peu à la médecine naturelle, puis il y a des gens qui suivent son enseignement, il y a des formations pour ça. Eh bien, je crois que c'est un nom à connaître, Saint-Hildegard. Ça fait partie de nos piliers.
De Bingen.
Voilà, de Bingen. Ça fait partie des piliers. À découvrir pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, ils peuvent lire ses ouvrages, bien sûr, ou après découvrir les produits qui sont élaborés suivant les recettes qu'elle a mises au point.
Est-ce que potentiellement tu pourrais terminer cette chronique avec une petite phrase en allemand ? Je sais que tu maîtrises bien la langue, un truc un peu sympathique, un peu joyeux qui nous fait.
Oh là là, tu me fais bien rire. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Qui vous fait bien rire ? Qu'est-ce que je pourrais dire ?
Je sais pas, c'est. Et qui rime en plus, en allemand.
Putain, attends, oh.
Et avec l'année 2018.
Non. Tu aurais dû me le dire avant, je me préparais.
Oh, pardon, je m'excuse.
Si je peux dire une phrase. Ça n'a rien à voir avec la chronique.
Si
mais
la
ça
maîtrise.
Me fait beaucoup rire. Enfin, c'est pas très marrant, mais c'est un peu difficile en fait quand on est français pour arriver à intégrer ça. Tu sais, nous on a ce truc. Si ton tonton, ton tonton, ton tonton sera tendu. Tu connais,
oui,
voilà,
oui,
ça.
Ton tête à guérir tatou, ou piano,
voilà. Et
bien,
il y a un truc comme
panier.
Ça. Ouais.
Ah bah oui, bah vas-y, un virlang, quoi.
Mais qui veut dire quelque chose. Wenn fliegen unter fliegen fliegen, fliegen 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 nach.
Voilà. Et ça veut dire, alors.
En fait, quand une mouche vole derrière une mouche, des mouches volent derrière des mouches.
Oh punaise.
Parce qu'en fait, c'est le mot mouche, fliegen au pluriel, c'est le même que voler. Voilà, donc c'est pour ça.
Bac, super.
Je sais pas, tu prends des pour vous.
Non, mais c'est parfait.
Non, c'est pas parfait, c'est pourri. Comment tu peux le dire ?
Une recommandation pour terminer cette intervention du jour.
C'est une recommandation, c'est pour les gens qui seraient intéressés pour apprendre l'usage des huiles essentielles dans un cadre familial. venez donc m'en parler, puisque je veux organiser un atelier sur le sujet, comme j'ai déjà fait. Et donc, ça serait bien de venir se manifester.
À la boutique
Audio. À la boutique, tout à fait.
Située avenue Toulouse, espace géré par Ingrid et Valérie. Merci Delphine, la semaine prochaine, tu sais à peu près de... les sinus, non ? Parce que là, c'est la période des sinus quand même. Pas du tout.
D'accord, c'est une demande particulière.
Moi, c'est chronique, c'est marrant. Hein, enfin,
ah.
Bon, ah mince, ah, j'aime pas comme tu me regardes. Allez, la semaine prochaine, tu sais de quoi tu nous parles ?
Eh ben, tiens, on parlera des sinus.
Ah, bah, parfait. À la semaine prochaine, Delphine. Belle journée. Et comment dire au revoir en allemand à...
Auf Wiedersehen.
Ah, bah oui, auf Wiedersehen.
Tschüss. Bis bald.
Votre rendez-vous bien-être vous a été présenté par le magasin Au Bio Nature et Vie, avenue de Toulouse à Villefranche-de-Rouergue.